Bonjour et bienvenue dans le podcast Art Éco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Ludivine Roubaud-Rey. Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Alors Ludivine, avant qu'on parle de la Société des Ocres de France, j'aimerais que vous puissiez vous présenter votre parcours et comment vous en êtes arrivée aux ocres et on va dire à la couleur minérale.
Alors, moi c'est une histoire de famille, puisque je suis la quatrième génération de l'entreprise. Donc, initialement, j'ai fait des études dans tout à fait autre chose. Jusqu'à ce que j'arrive en licence de marketing et que je cherche une alternance au moment du départ à la retraite de ma grand-mère. Donc je cherchais l'entreprise cherchait quelqu'un. On s'est dit que c'était peut-être le moment de tenter l'expérience. Je voulais pas rentrer plus jeune parce que je voulais avoir quelque chose à apporter à l'entreprise et pas rentrer par défaut. Je voulais que ce soit vraiment un choix. Donc j'ai fini par rentrer il y a 4 ans.
D'accord, ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la Société des Ocres de France, depuis quand ça existe, où elle est située et un peu les produits et services que vous proposez?
Alors, la Société des Ocres de France, elle a été créée en 1901. Donc, c'est une entreprise qui est... Alors, si on reprend à la base, il y a deux régions qui étaient productrices à l'époque d'ocre. C'était le Vaucluse et la Bourgogne. Et la Société des Ocres de France, elle a été créée en 1901. C'est le regroupement de plusieurs petites sociétés qui subissaient un peu trop la concurrence de la Bourgogne et qui ont décidé de s'unir pour créer la Société des Ocres de France. Donc, il restait la Société des Ocres de France qui était un gros, on va dire, et quelques petites entreprises indépendantes. Alors, on utilisait l'ocre principalement dans le bâtiment. On l'utilisait dans les enduits, dans les peintures, etc. Mais à l'époque, on l'utilisait également beaucoup dans l'industrie du caoutchouc. On se servait de l'ocre pour épaissir le caoutchouc. Et c'est pour ça, je sais pas s'il y en a qui vont se rappeler, mais les tétines de biberon, les rondelles de bocaux, les chambres de vélo, tout ça était orange parce qu'il y avait de l'ocre dedans à l'époque. Ah. Donc, en fait, dans les années 50, on a remplacé l'ocre par des produits dérivés du pétrole dans le caoutchouc. Et les pigments synthétiques sont arrivés sur le marché. Donc, ça a fait un gros coup dur pour l'ocre. Et donc, toutes les petites entreprises ont commencé à fermer les unes après les autres. Et en 74, il restait que la Société des Ocres de France qui était en faillite. Donc, il y avait eu la demande de cessation d'activité, le bilan était déposé, enfin, les machines étaient à l'arrêt, tout était terminé. Et mon arrière-grand-père, qui était maçon, travaillait donc l'ocre dans sa vie de tous les jours, dans ses constructions, etc., dans ses... Voilà, et il s'est dit, je peux pas laisser fermer la dernière entreprise qui produit de l'ocre ici. Et voilà, il a décidé de parier sur l'avenir, de racheter cette entreprise et de petit à petit retrouver des nouveaux débouchés. Donc voilà, il a trouvé des nouvelles idées. Ils ont créé après avec mon grand-père et mon grand-oncle qui l'ont rejoint des gammes de badigeons, de chaux prêts à l'emploi, d'enduits pour pouvoir en fait un petit peu relancer l'activité, trouver de nouveaux débouchés. Voilà, ils ont un petit peu diversifié la gamme, quoi.
D'accord, ok. Et alors aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent dans la Société des Ocres de France?
On est 11. 10 ou 11, ouais. Il y a une personne à la carrière et après, on est tout le reste à l'usine.
D'accord. Et du coup, donc c'est la dernière, on dit quoi? Ocrerie? Non, on dit quoi?
On est les derniers producteurs d'ocre.
D'accord. Tout simplement, ouais. Des producteurs d'ocre, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres producteurs d'ocre, donc plus en France du coup, mais dans d'autres pays de l'Europe, est-ce que vous avez d'autres acteurs
Au sens propre de... Il y a des producteurs de terre, on confond souvent les deux, mais nous on fait vraiment le distinguo entre ocre et terre. Donc dans la composition de l'ocre par rapport à ce qu'est l'ocre, on est, à notre connaissance, les derniers en Europe.
D'accord, ok.
Les derniers producteurs, voilà, indépendants. Il y a encore en Bourgogne, qui était une région, donc comme je disais à l'époque, qui était productrice d'ocre, il y a une carrière d'argile. Elle n'est pas une carrière d'ocre, c'est une carrière d'argile. Où on extrait l'argile et en fait, la découverte, c'est-à-dire ce qu'ils enlèvent en premier, c'est de l'ocre.
D'accord.
Mais ils ne sont pas au crier, si vous voulez, parce qu'ils ne savent pas ils savent pas qu'en faire, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, ils nous envoient après cette ocre et c'est nous qui la transformons.
D'accord.
Voilà, à proprement parler, on est les derniers producteurs.
Ok, d'accord. Alors, pourquoi j'ai voulu vous recevoir sur le podcast, on en a parlé avant d'enregistrer, c'est parce que j'ai beaucoup de questions et il y a beaucoup de parallèles entre la couleur. Donc moi, le thème du podcast, c'est la couleur végétale. Pas la teinture uniquement, la couleur végétale au sens large. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, tu devrais faire couleur naturelle au sens plus large, intégrant couleur animale et couleur minérale. » Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Attends, la couleur minérale, est-ce qu'on peut s'en servir? C'est quoi les risques ?» etc., etc. Donc, il y avait beaucoup de questions. Donc, je suis ravie de vous avoir. Vraiment, c'est un sujet, comme je vous disais, qui va vraiment plaire aux auditeurs parce que voilà, c'est une ouverture. On reste dans la couleur, mais on apprend d'autres choses. Et donc, ce que je voulais voir avec vous, c'est qu'on, si vous êtes OK, de retracer comment on obtient de l'ocre. De A à Z, parce que franchement, on n'y connaît rien. Hein, on va être vraiment comment on crée de l'ocre pour les nuls. les couleurs que vous obtenez.
Ouais.
Et les applications, comme vous dites, les nouveaux débouchés, etc. Sachant que dans notre préparation, j'ai entendu qu'on avait quand même beaucoup de parallèles avec les applications de la couleur végétale. Et ce sera hyper intéressant d'en échanger toutes les deux. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter voilà, comment on obtient de l'ocre?
Donc, l'ocre, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que c'est la première question, parce que c'est souvent confondu. On a souvent tendance à confondre la couleur et la matière. Et ça, c'est très important pour nous, puisqu'on a des pigments qui peuvent avoir la couleur de l'ocre et qui, pour autant, n'en sont pas. Et dans l'utilisation, ça va être très important de dissocier les deux. Un pigment peut avoir la couleur de l'ocre et pour autant être un pigment synthétique. Et les applications entre un pigment synthétique et un pigment naturel ne sont pas les mêmes. La résistance dans le temps et les qualités propres ne sont pas les mêmes. Donc voilà, nous, l'ocre, vraiment, on en parle en tant que matière et pas en tant que couleur. Et en tant que matière, donc c'est une roche ferrique, c'est une argile blanche, la kaolinite, qui est amalgamée à de l'hydroxyde de fer ou de l'oxyde de fer. L'hydroxyde de fer, ça donne sa couleur jaune, c'est ce qu'on appelle la goethite, et donc l'oxyde de fer, l'hématite, donne la couleur rouge. Nous, dans notre carrière, on a principalement du jaune. On a des petits filons de rouge, mais c'est pas le cœur du minerai, puisque nous, c'est important d'aller creuser en profondeur pour récupérer vraiment une ocre qui est de bonne qualité. Et on va pas juste en profondeur et quand on en surface. Et quand on va en profondeur, nous, c'est du jaune qu'on a.
D'accord.
Donc, on a une campagne d'extraction annuelle qui dure à peu près une quinzaine de jours. Annuelle ou tous les deux ans, ça dépend. On extrait. Aujourd'hui, c'est très simple, hein, c'est mécanique pour le coup. C'est à la pelle, hein, qu'on vient extraire dans la carrière sous forme de banquette, en fait, si vous voulez. Ensuite, on extrait, alors ça, c'est pas de l'ocre, c'est ce qu'on appelle le minerai ocreux. Le minerai ocreux, il est composé d'à peu près 90% de sable pour seulement 10% d'ocre, environ. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer vraiment l'ocre pure. Donc, on va commencer par faire le lavage. Donc, on amène le minerai ocreux sur une aire de lavage. On envoie de l'eau à haute pression. Alors, ce qui est intéressant, nous, c'est que on récupère cette eau dans des mines qui sont très proches de chez nous, qui n'ont plus en activité hein, depuis les années 50, qui sont aujourd'hui un lieu touristique qui est très, très sympa à visiter, les mines de Brioux. Donc, ils sont pas très loin de chez nous. En fait, il y a une nappe phréatique dans ces mines-là. Donc, on vient, en fait, pomper l'eau de ces mines, on s'en sert pour laver notre ocre et en fait après elle les retourne. Donc, il n'y a pas de gaspillage d'eau à part ce qui se perd par évaporation. Donc on envoie de l'eau à haute pression sur ce minerai ocreux qui va en fait aller jusque dans un cyclone séparateur. Donc là il y a la force centripète qui va en fait permettre de faire tomber le sable qui est plus lourd et l'ocre elle part sous forme aqueuse dans des canalisations qu'il envoie jusque dans les bassins de décantation. Et là, ça se passe un petit peu comme le sel, qui est souvent plus connu du grand public que l'ocre. Donc, c'est-à-dire que sous forme de, on a des grands bassins qu'on remplit, et après, c'est un système de bouchons vidangeurs. Donc, en fait, l'eau, on l'enlève petit à petit. Ça sèche, ça sèche, ça sèche. Donc, au début, ça arrive vraiment, c'est très liquide. Et puis, petit à petit, ça va sécher. Ça devient de plus en plus dur. Après, ça craquelle. Et quand c'est bon, on vient récupérer notre ocre. On l'étend ensuite sur une aire de séchage. Donc là, on la tourne, on la retourne pour pouvoir faire un petit peu son séchage. Donc, on travaille évidemment au rythme des saisons. Chaque étape se fait à une période de l'année puisqu'on travaille beaucoup avec le vent, avec le soleil. Donc, on a besoin que ce soit des périodes où il fait beau. Et ensuite, on ramène l'ocre à l'usine qui est à Apt. Donc, notre carrière est sur Gargas. L'usine est à Apt à quelques kilomètres. On ramène donc notre ocre à l'usine, on la stocke et ensuite, on va la broyer très finement. Et ensuite, on va éventuellement calciner une partie de notre production pour obtenir de l'ocre rouge. Donc, c'est comme ça qu'on obtient notre ocre rouge. On la calcine entre 700 et 900 degrés. Donc, on a un grand four. Elle met 15 minutes à peu près à être cuite à point. Et ensuite, on a notre ocre jaune, notre ocre rouge. Et en fonction de la cuisson et en fonction des mélanges, on va pouvoir aussi obtenir encore un petit panel de couleurs.
D'accord. Voilà. Et alors là, vous avez combien de couleurs à peu près? Parce que sur votre site, j'en vois plein. J'en ai vu plein.
Parce qu'il faut bien faire le parallèle entre ocre et les autres pigments. En fait, si vous voulez, dans la grande famille des pigments, nous, on fait cette... Alors, c'est très subjectif, il y a plein de classifications différentes, mais nous, on a essayé de faire au plus simple. Dans la grande famille des pigments, on va dire que... Pigments minéraux, évidemment, hein, pour le coup. Dans la grande famille des pigments, on a d'un côté les naturels, d'un côté les synthétiques. Et parmi les naturels, il y a les ocres et les terres. Donc, pour ce qui est de l'ocre, on est les derniers producteurs, mais après, on a également d'autres terres, pour partie qu'on fabrique nous ou qui viennent d'Italie, de Chypre, qui sont des pays qui sont très producteurs de terres. Italie, Chypre, Inde, voilà. Et après, à côté de ça, on a également des pigments synthétiques, que soit on fabrique nous également, soit on fait venir d'Allemagne, d'Angleterre. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une centaine de pigments différents. Mais tous les pigments ne sont pas de l'ocre, évidemment. C'est pour ça qu'il y a une confusion qui se fait. Et souvent, j'entends, j'ai acheté de l'ocre rose, j'ai acheté de l'ocre bleu. Non, on est bien d'accord que c'est pas du tout de l'ocre, c'est un pigment qui est synthétique. Et à côté de ça, un pigment peut avoir la couleur, comme je disais en début d'émission, ça peut être avoir la couleur de l'ocre et pour autant être un pigment synthétique. Donc ça, voilà, c'est important de parler en tant que matière et pas en tant que couleur. Parce que vous faites votre façade avec un pigment naturel ou un pigment synthétique, ça va pas du tout pareil. Les pigments synthétiques ont une très bonne, un très bon pouvoir de coloration. Ils vont colorer, ils vont être beaucoup plus vifs, beaucoup plus vifs. En revanche, la tenue dans le temps va être bien meilleure avec un pigment naturel. A fortiori, une ocre qui est un petit peu la reine en termes d'inaltérabilité aux UV, quoi. Donc, vous faites votre badigeon extérieur avec une ocre et avec un pigment synthétique, même s'ils ont la même couleur, le résultat ne sera pas du tout le même et la tenue dans le temps ne sera pas du tout la même.
D'accord.
Ça, c'est de le souligner.
C'est marrant, déjà, première différence, c'est que généralement, nous, par exemple, sur la teinture ou les autres domaines d'application de la couleur végétale, il y a souvent l'histoire de la résistance aux UV où on accuse, on va dire, la couleur végétale de moins tenir que la couleur synthétique. Et chez vous, c'est l'inverse. Donc, déjà, ok. Ouais. Et donc, vous produisez, donc, on va redire des pigments naturels type ocre. Ça, c'est vous qui les faites. Vous faites aussi vos synthétiques.
Alors, nous, notre cœur de métier, c'est l'ocre. Voilà. On est producteur d'ocre. Après, à côté de ça, on a également des pigments naturels, comme des terres, autres. Mais principalement, vraiment, nous, c'est l'ocre. Et, les pigments synthétiques, effectivement, c'est des mélanges qu'on fait nous. Mais vraiment, notre cœur d'activité principale, quand même,
c'est
ce
l'ocre.
Qui fait notre particularité, c'est l'ocre.
Voilà. D'accord. Et alors, quand vous dites des pigments naturels de terre, vous entendez quoi? Enfin, pour qu'on ait des exemples.
Ça peut être des mélanges. Par exemple, je peux prendre une ocre, une terre et créer un nouveau pigment. C'est des mélanges, en fait, qu'on fait en usine.
Et les applications sont les mêmes que pour l'ocre?
Oui, à partir du moment où on reste sur quelque chose alors de manière générale, si vous voulez, l'application, elle est dans le bâtiment en tout cas. Hein, je parle du bâtiment. Ça va être grosso modo la même chose. On va pouvoir appliquer plus ou moins pareil, naturel et synthétique. La seule chose, c'est que on va pas avoir le même dosage. On pourra monter plus haut avec un pigment naturel qu'avec un pigment synthétique en termes de saturation et la résistance aux UV. Voilà. Mais après, sinon, je veux dire, vous pouvez utiliser votre pigment naturel ou synthétique dans votre enduit, dans votre badigeon, dans votre...
D'accord, ok. J'avais une question, enfin j'en ai plein en fait, mais je vais aller dans l'ordre. La répartition entre ce que votre, on va dire, votre cœur d'activité, votre chiffre d'affaires entre les pigments minéraux synthétiques et les pigments minéraux naturels type ocre, c'est quoi? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de demandes en ocre naturel et en pigments naturels?
Alors, donc déjà, ocre naturel, ocre tout court, parce que l'ocre...
Ocre tout court, oui, pardon. Ocre
naturel. Alors, nous, on fait, en fait, notre principale activité, c'est l'export.
D'accord.
L'export, donc, d'ocre. Et il y a à peu près 70% de notre ocre qui part à l'étranger, déjà.
D'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est notre activité première, on va dire. Et après, à côté de ça, on a également des distributeurs, des professionnels, des industriels et des particuliers qui achètent à la fois nos ocres, à la fois nos autres pigments, à la fois nos badigeons de chaux prêts à l'emploi, à la fois nos enduits, nos peintures à la farine. On a diversifié la gamme. Donc, on va dire que le particulier, voilà, vous, moi, ou le professionnel, l'industriel, ne va pas acheter que de l'ocre. Mais dans notre activité, il y a quand même l'export de l'ocre qui est une grande partie de notre activité.
D'accord, ok. Et alors, quelles sont les applications? Donc, vraiment toutes, si vous pouvez nous faire un éventail de toutes les applications par ordre d'importance.
Très clairement, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment, on est, voilà, donc tout ce qui est coloration, donc de badigeon, d'enduit, de ciment, de plâtre, de vraiment c'est tout ce qui va toucher au bâtiment.
D'accord.
Nous, on est spécialisé dans la chaux, mais après ça peut être autre chose.
Mm-hmm.
Après, il y a tout ce qui est peinture, que ce soit des peintures industrielles ou artisanales, que ce soit des peintures murales comme des peintures artistiques. On a une clientèle d'artistes aussi. Alors après, il y a un domaine dans lequel nos pigments sont utilisés, mais on s'en éloigne un petit peu parce que c'est compliqué au niveau de la législation qui évolue vite, etc. C'est la cosmétique. Nous, on n'est pas spécialisés dans la cosmétique. Donc, on sait que nos ocres, notamment jaunes et rouges, sont utilisables en cosmétique. On a fait pas mal d'analyses, tout ça. Donc, on sait que c'est utilisable. Par contre, ça évolue tellement vite et c'est pas notre cœur de métier à la base. Donc, aujourd'hui, les personnes qui nous achètent, les entreprises qui nous achètent sont, elles, responsables de leurs tests, de leurs analyses, etc. On a fait un pas en arrière là-dessus parce qu'en fait, ça représentait un pourcentage infime de notre activité. Et par contre, en termes d'investissement et en termes de temps, c'était entre guillemets pas rentable pour nous. Ouais. Mais pour autant, celui qui veut continuer à les utiliser dans la cosmétique peut en menant lui-même les analyses nécessaires.
D'accord. Et les utilisations en cosmétique, je pense tout de suite moi à, par exemple, je crois que c'est dans la savonnerie, elle avait parlé aussi des ocres, mais notamment dans le make-up, c'est ça ou vous avez d'autres applications?
On a beaucoup de savonniers déjà. Ben j'ai vu que, je crois que Jessica est passée de Blossom.
Oui, de Blossom. Voilà. Ouais.
Jessica utilise nos ocres dans ses savons, par exemple.
D'accord, voilà.
Très beau savon à l'ocre jaune et rouge qui est vraiment magnifique et qu'on commercialise aussi chez nous. Donc, on a beaucoup, beaucoup de savonniers.
D'accord.
Et après, on a été également approchés par d'autres marques pour tout ce qui est make-up, quoi.
Ouais, make-up, ok.
Mais après, okay, nous, comme tu sais, nous, ça sort un peu de notre domaine de compétences. Donc, on laisse ça, en fait, parce que la législation, elle évolue tout le temps par rapport aux teneurs autorisées, par rapport aux nanoparticules, c'est très compliqué. Et on a essayé pendant des années de se maintenir vraiment à la page, d'essayer de comprendre tout, etc. Mais c'est très compliqué, d'autant plus qu'on a une clientèle internationale. Donc, il fallait être un peu au courant de ce que chaque pays voulait, aux États-Unis, de ce que chaque État voulait. Donc, on a dit, on fait un step en arrière. Nous, on sait que c'est utilisable. Maintenant, à vous de mener les recherches en amont.
D'accord, Et alors, au-delà du bâtiment, de la peinture, donc peinture industrielle ou artisanale, ça peut être donc un peintre pour faire des
ce qu'il veut.
Alors j'allais dire peut-être aquarelle, tout ça, toutes les types de peinture. D'accord, ok.
Aquarelle, oui bien sûr, des pastels, des peintures à l'huile, tout est possible, tout est possible. Nous aujourd'hui, Par exemple aujourd'hui, notre meilleure vente sur le site, c'est la peinture à la farine. Je ne sais pas si vous connaissez. On l'appelle également peinture suédoise. Aujourd'hui, c'est notre meilleure vente sur le site. C'est 80% de nos appels téléphoniques. C'est par rapport à la peinture suédoise. C'est une peinture qui a été remise au goût du jour il y a une vingtaine d'années par l'association Terre et Couleur et qui est formidable. C'est une peinture qui se cuisine. Donc, qui se cuisine chez vous à base d'eau, de farine. Vous faites comme une béchamel. Voilà. Ouais. Eau, farine, pigments naturels, huile de lin, savon noir et sulfate de fer. Donc, très simple, hein, 7 ingrédients. Vous le faites vous-même. Donc, vous faites votre cuisine. Hein, c'est vraiment une recette de cuisine que vous suivez. Vous laissez refroidir ça tranquillement. Et vous avez une peinture qui est utilisable sur du bois brut, intérieur, extérieur, et qui tient 5 à 10 ans sans aucun problème. Donc, qui est 100% écologique et qui est surtout très économique puisqu'on est à peu près 1 euro, 1,50 € du mètre carré.
D'accord. Bah, dis donc, je ne connaissais pas. On apprend encore... Dis donc, c'est un épisode où on apprendra plein de trucs. Ok, donc la peinture à la farine ou peinture suédoise.
Ouais.
Ok, exactement. D'accord.
Et voilà, ça c'est une utilisation par exemple qui a 20 ans, c'était vraiment pas très connu, alors qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup démocratisé parce que les gens déjà ils ont envie d'avoir ce qu'il y a dans leur peinture aussi parce que ça les concerne aujourd'hui. Et puis bah il faut pas se mentir, c'est très cher. Donc du coup bah ils cherchent des solutions plus économiques. Donc aujourd'hui, c'est une recette qui est beaucoup plus connue, qui est beaucoup plus partagée. On a beaucoup de gens qui s'y sont mis.
D'accord, voilà. Ok. Donc là, c'est donc domaine peinture. Cosmétique, vous faites un pas en arrière, mais il y a de la demande. Est-ce que vous avez d'autres domaines d'application sur lesquels on vous demande vos ocres?
Oui, mais c'est vraiment très...
anecdotique.
J'ai de tout. J'ai un client qui fait des croquettes pour chien. Qui colore ses croquettes pour chien avec de l'ocre. J'ai pas de détails à vous communiquer. Il est là. Je sais qu'il fait ça, mais après, je sais pas comment ça se passe. On a des clients qui l'utilisent dans l'agriculture, qui l'utilisent dans la coloration de terre cuite, dans la céramique, dans la faïence, dans la poterie. On a un client qui fait des appâts de pêche avec nos ocres. Enfin, on est vraiment sur, tout est.
D'accord.
En fait, l'ocre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle peut colorer n'importe quel liant. L'ocre, elle va colorer n'importe quel liant.
D'accord. Alors, j'ai, moi, plusieurs questions. Est-ce que l'ocre peut être utilisée en teinture textile?
Alors, oui. On a des clients qui le font. C'est pas des clients particuliers. C'est des entreprises. Et on a été encore approchés récemment, pareil, par une entreprise aux États-Unis pour ça. Donc, oui, c'est possible. Maintenant, comment ils font, je sais pas vraiment. Parce que c'est vrai que les pigments, au contraire des colorants, ils sont pas solubles comme le colorant. Donc, artisanalement, vous pouvez teinter un tissu en y mettant de l'eau, du pigment, du sel d'Alain. Mais ça va pas être très résistant dans le temps. Ça va pas être comme un colorant, ça va pas être pareil. Il y a qu'à voir, hein, vous mettez dans une piscine ou même dans un bac d'eau, vous mettez du colorant et du pigment, le pigment va se déposer au fond.
Ouais.
Tandis que le colorant va teinter, ils n'ont pas la même homogénéité. Pour tout un chacun, c'est un peu plus difficile. Après, je sais qu'il y a des entreprises qui ont des recettes pour le faire, puisqu'il y en a qui sont friandes de nos ocres et on a de la demande de ce côté-là.
Ma deuxième question, c'était... Est-ce que l'ocre peut s'ingérer, peut avoir des interactions avec la peau? Est-ce que ça peut être, comment je vais dire? J'ai deux questions en une, mais est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a quelque chose de nocif dans l'ocre, en fait?
Alors, l'ocre, c'est, comme je disais, donc c'est une argile blanche et de l'hydroxyde ou de l'oxyde de fer. Donc, on est sur un produit qui est naturel, il n'y a pas de souci. Après, naturel ne veut pas dire pas toxique pour autant. Je veux dire, on sait que, par exemple, sur deux années différentes, au même endroit d'extraction, la teneur en métaux lourds, elle dépasse pas les seuils autorisés, mais pour autant, elle diffère. Donc, que l'environnement dans lequel on est sur un environnement naturel. Donc, admettons, je vous dis n'importe quoi, qu'il y ait eu quelque chose de nocif dans l'air, ça peut se déposer, c'est des roches.
D'accord.
Voilà, ça peut se déposer.
Ok.
Je pourrais pas vous garantir, voilà. Après, on l'utilise pas dans l'alimentaire, mais c'est utilisable en cosmétique à rincer. Donc, après, je... Puis la personne de l'entreprise qui fait des croquettes pour chiens, elle a fait ses tests, elle, de son côté, donc ça passe, j'imagine. Maintenant, je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas notre secteur.
D'accord.
On est vraiment spécialisé dans le bâtiment. Après, les secteurs annexes...
Ils font leurs propres analyses.
voilà, je vous le dis par pour vous citer des choses un petit peu qui prêtent à sourire et qui sont surprenantes, mais c'est pas du tout notre cœur de métier.
D'accord. Donc le risque entre guillemets, c'est une teneur en métaux lourds, mais qui respecte les niveaux, on va dire. Mais donc c'est un des trucs à regarder. Pas utilisable dans l'alimentaire, ok. Moi j'avais
Alors,
une question.
Pas utilisable dans l'alimentaire, en fait, j'en sais rien. C'est juste qu'on s'est pas penché
ouais,
dessus.
Vous c'est pas un de d'accord, ok. Vous c'est pas un de vos domaines.
Nous on est une petite structure. On fait ce qu'on sait faire, en fait.
Ouais, d'accord.
C'est important que chacun reste aussi à sa place, entre guillemets. Nous, on n'a pas ni les fonds, forcément la demande pour ça. Maintenant, libre à une entreprise de faire les tests avec nos ocres pour voir si c'est possible ou pas. Mais que ce soit dans le secteur de la cosmétique maintenant et ou le secteur alimentaire ou autre, voilà, ça reste à chaque entreprise de faire ses tests en laboratoire et de creuser sur le sujet, sans mauvais jeu de mots.
Ouais. Et alors du coup, super transition sur la partie environnementale, on va dire. Il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est extraction de roches, etc., que c'est moins renouvelable, par exemple, qu'un pigment végétal ou un colorant végétal. Vous avez parlé de saison, de campagne d'extraction. En fait, tout ça, c'est normé. Vous avez une période où vous avez le droit de creuser la roche, entre guillemets, et d'autres périodes où non.
Oui,
alors, un petit peu ça.
Oui, oui. On travaille en saisonnalité déjà par rapport à la météo. Mm-hmm. Et puis, on est également ICPE, donc installation classée pour l'environnement. Donc, on a des contrôles fréquents, par exemple, pour vérifier que on est. Donc, notre carrière, pour situer, elle est au milieu d'une forêt. Pour vérifier qu'on va pas gêner les chauves-souris, qu'on va pas gêner les amphibiens, qu'on va pas gêner, voilà, on a des contrôles, on est contrôlé par la DREAL également, on a des autorisations, même si on est propriétaire de notre terrain, de nos terres, on est contrôlé par la DREAL, on est soumis à autorisation d'extraction, on a un tonnage annuel à respecter, ce tonnage il est de 800 tonnes. Nous aujourd'hui, c'est poser la question face à une demande plus importante. On s'est dit, ok, on va pas extraire plus, donc comment on peut faire pour récupérer plus d'ocre? On s'est dit, on va laver mieux, parce qu'il y a beaucoup au final d'ocre qui part dans le sable malgré tout. Donc on a investi dans un nouveau cyclone pour arriver à séparer mieux l'ocre et le sable et à récupérer plus d'ocre qui part dans le sable. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer d'innover pour être plus, pour avoir voilà plus de matière tout en n'exploitant pas plus en fait.
Ouais.
Voilà. Après, voilà, on est, enfin, c'est l'ocre, c'est, ça pollue pas, c'est une industrie qui pollue pas, puisque donc par rapport à l'eau, donc comme je vous disais, on tourne en circuit fermé, il y a pas de pollution de l'ocre par l'eau, il y a pas de pollution de l'ocre
de l'eau par l'ocre, ouais.
De l'eau par l'ocre, voilà, il y a pas, je veux dire, après voilà, on travaille avec la météo, donc voilà, le soleil, le vent. Une fois à l'usine, bah oui, il y a un peu d'électricité et de gaz pour faire tourner le four et les machines, mais on est sur une industrie quand même très propre, quoi.
Le cycle de renouvellement du coup de l'ocre, ça se constitue en combien de temps? Est-ce que c'est à l'échelle humaine? Est-ce que j'en sais rien? En 80 ans, on peut reformer de l'ocre ou c'est vraiment un cycle long de la roche qui fait que c'est vraiment très long de reconstituer de l'ocre?
A priori, l'ocre n'est pas renouvelable en soi, puisque, alors, j'ai plus exactement tout en tête, mais ça vaudrait le coup que je me repenche dessus. C'est vraiment, ça a été un phénomène géologique en fait. Hein. C'est à la suite de grosses pluies à 110 millions d'années que la formation de l'ocre s'est faite. Chez nous, c'est le plus gros gisement au monde en termes d'importance. Et notre carrière est la dernière en extraction. Donc c'est vraiment un tout petit pourcentage sur une très grosse un très gros gisement.
Ouais. Vous avez pu évaluer combien il vous restait entre guillemets de matière disponible? Parce que je me dis, imaginez, j'en sais rien, d'un coup vous creusez et il n'y a plus rien.
Alors
comment on évalue qu'il y a encore de l'ocre ou pas? Enfin, ma question est naïve, hein, mais...
Non, bah déjà, visuellement, on voit, puisqu'on sait, entre guillemets, on a un plan, si vous voulez, qu'on fait en accord avec la DREAL, hein, notamment, hein, d'extraction. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, cette année, on extrait tel endroit. Donc, on sait qu'il va disparaître ce petit bout. Et après, il va disparaître ce petit bout. Donc, en faisant ça, on arrive quand même à estimer, sachant qu'on va aussi en profondeur. Hein, c'est pas juste ce qu'on voit avec nos yeux. Donc, on arrive à estimer qu'il y en a encore pour de très, très nombreuses années.
D'accord.
Nous, de notre exploitation à nous. Et encore une fois, nous, on est les derniers donc à extraire. Mais si vous allez promener dans des sites touristiques, le Colorado provençal à Rustrel ou le Sentier des Ocres à Roussillon, pour ne citer que les deux sites les plus touristiques et les plus connus, il y aura toujours de l'ocre, en fait, si vous voulez. Nous, si on voit le gisement dans son ensemble, on extrait peut-être, je ne sais pas ce que ça représente, mais peut-être 2%, je ne sais pas, je dis ça n'importe quoi,
ouais,
je n'ai pas de chiffre exact en tête. Mais... Et avant qu'on ait fini ces 2%, il va se passer déjà de nombreuses années.
Les parallèles, on les a vus, c'est donc quasiment les mêmes applications, enfin les grands domaines à peu près les mêmes qu'en couleur végétale. Il y a l'histoire du renouvelable ou non. Oui, une plante, ça se replante. Ouais. De l'ocre, c'est plus compliqué. Donc, il y a ça comme différence. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous proposez à...
Ouais, bah oui, donc tout ce qui est badigeon de chaud, enduit de chaud, adjuvant, charge liant. Nous, en fait, chez nous, le client, soit il a du prêt à l'emploi, on lui propose, soit il a tous les ingrédients pour faire lui-même, soit il a un entre-deux, entre guillemets. Mais on propose tous les ingrédients, puisque nos ocres, notamment, c'est un ingrédient de base pour colorer, voilà. Donc, on a des clients qui viennent chez nous, qui prennent donc nos ocres, notre chaux, du sel d'alun pour fixer la couleur, du métier de cellulose, je sais pas, ils prennent tous les ingrédients qu'il va leur falloir pour faire leur propre badigeon, ou à côté de ça, on en a qui vont acheter nos produits prêts à l'emploi, voilà. On propose des kits de peinture à la farine, voilà, on a diversifié notre gamme aussi pour, mais moi, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, je fais un gros zoom sur l'ocre en particulier. Voilà, ouais. Ça c'est important
de préciser.
Ouais.
Vos collaborations ou vos partenariats un peu sympas à citer, que vous avez le droit de citer, bien sûr, qui sont pas confidentiels, est-ce que vous avez des... Ils sont tous confidentiels. Est-ce que vous avez des exemples de projets dont les auditeurs auraient pu entendre parler, qui ont été réalisés avec des ocres, où on a employé de l'ocre, ou...
Tous les magasins L'Occitane dans le monde sont faits avec nos badigeons, voilà, donc...
Ça c'est un super exemple parce que ça parle aux gens, donc ça c'est cool. Ok, d'accord. Moi, il y a quelque chose qui me marque et qui me touche dans votre témoignage, c'est que voilà, vous êtes les derniers. Comment vous faites pour transmettre ça? Donc déjà là, vous êtes la quatrième génération, mais comment vous arrivez à motiver des jeunes à s'intéresser à l'ocre, à s'intéresser à voilà au respect de l'extraction, de la transformation. Comment vous faites en fait pour faire perdurer? C'est quoi la suite, quoi? C'est quoi le plan de transmission, entre guillemets?
Alors, déjà, je pense que les gens, de manière générale, sont de plus en plus intéressés par toutes les solutions naturelles et propres pour la planète. Je pense que déjà, il y a un travail ambiant, entre guillemets, latent, hein, qui se fait sans qu'on ait besoin. Voilà, on voit qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour le naturel, l'écologie, etc. Donc, nous, on part avec le mouvement. Ou le mouvement part avec nous, je sais pas. Enfin, en tout cas, on avance tous en même temps. Je pense que ce qui est important aussi, c'est à travers votre travail à vous et ceux de tous ceux qui essayent de mettre en lumière l'ocre par un travail journalistique ou voilà de podcast, etc. D'intéresser les gens en fait à se poser la question de d'où ça vient en fait tout simplement. Parce que je pense que il y a beaucoup de gens. Donc le Luberon, là où on habite, c'est une région qui est très touristique. Il y a énormément de monde qui vient chaque année et l'attraction principale, c'est l'ocre, puisqu'on est connu pour ça. Donc, les gens se rendent sur les sites touristiques. Donc, je citais tout à l'heure le Sentier des Ocres, le Colorado Provençal, la Rustrel, etc., etc. Et en fait, je pense qu'ils apprécient le paysage, mais ils se posent pas la question. Ils se sont pas forcément tous, bon, une partie ici, bien sûr, hein, mais il y en a beaucoup qui se sont pas posé la question de d'où ça vient, enfin, de d'où c'est venu, d'où c'est apparu, à quoi ça sert. Et je pense que je leur jette pas la pierre. Moi-même, je m'intéresse pas à la fabrication du tout. Des fois, je me pose la question, d'un coup, je me dis, comment c'est fait ça? Et voilà. Et des fois, on se dit, oh, j'ai mis 30 ans pour me poser cette question quand même. Voilà. Donc, et même des locaux, je veux dire, j'ai déjà parlé avec des amis ou des rencontres, etc., où ils me disent, tu fais de l'ocre, ok, cool. Mais il me cite un endroit touristique et je leur dis bah non, tu vois bien que si tu t'y promènes le week-end, c'est que c'est pas extrait, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, vous êtes où, vous? Et en fait, petit à petit, ils s'intéressent, mais on se rend compte qu'ils ne se sont jamais posé la question, alors qu'ils sont nés dans cette région, ou alors les touristes y ont passé une semaine sans se poser la question, en fait, de ce que c'était, de à quoi ça servait exactement, de comment l'utiliser. Et quand ils entendent un podcast comme le vôtre ou quoi, ils se disent « Ah, mais ok, c'est chouette, il y a encore de l'avenir, il y a un intérêt en particulier, il y a des avantages à utiliser ça. » Et je pense que c'est vraiment une question aussi de d'éducation en douceur et de façon bienveillante pour leur ouvrir les yeux sur tout ça. Et je pense que c'est pas du désintérêt ou quoi, c'est juste que jusque-là, la question s'est pas posée et qu'une fois que c'est enclenché, par contre, voilà, ça ouvre plein de possibilités et les gens sont hyper friands de tout ça.
Ouais. Quand vous dites, il y a des artistes qui mettent en avant les ocres, etc., je pense à, je sais pas si vous suivez le compte La Pigmentière.
Non.
Non, elle a fait un journal justement de vacances et elle est passée dans des lieux touristiques d'ocre et justement elle retrace ça et j'avoue que quand j'ai pris rendez-vous avec vous, je me suis dit elle en parle dans son journaling en dessin, enfin vraiment et avec des ocres etc. Et je trouve ça intéressant. Je pense que oui, il y a aussi le fait qu'il faut en parler. Nous, moi, ça a été simple de vous contacter parce que j'ai beaucoup la question. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on peut? J'ai la question et d'ailleurs je vous la pose. C'est est-ce qu'on peut mélanger des pigments type ocre avec des pigments végétaux? Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que
nous on le fait pas parce qu'on travaille pas le végétal. Ouais. Maintenant je pense que c'est possible. Et à titre d'exemple par exemple, ça fait beaucoup d'exemples. On travaille avec un artisan de chez nous, du coin, un jeune, qui fabrique ses propres aquarelles. Donc, il a une palette où il n'y a que des ocres, une terre et un bleu indigo qui est fabriqué avec de l'indigo de juste à côté de chez nous. Et donc, cette palette, bah, si vous mélangez une aquarelle à l'ocre jaune avec une aquarelle indigo, bon, la couleur, je vous garantis pas qu'elle soit terrible, mais en tout cas, c'est possible, quoi.
Donc, d'accord, donc c'est possible.
J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Je vois pas de contre-indication. En tout cas, les pigments minéraux, on peut tous les mélanger entre eux. Donc je m'avance pas trop, mais je pense pas qu'il y ait de soucis.
Il y a peut-être des gens qui ont essayé, qui vont nous en parler du coup à la suite de l'épisode. Ouais. Ok, d'accord. Je pense que vous ouvrez la discussion sur justement les pigments minéraux et je suis hyper contente de vous avoir encore une fois. Je pense que ça va créer des débats et puis il y a des gens qui vont venir compléter. C'est chouette d'avoir ça. Je voulais vous poser une avant-dernière question. C'est est-ce que vous avez des livres, des comptes ou des comptes Instagram ou d'autres comptes ou d'autres sources à nous inviter à suivre pour ceux qui voudraient, bah voilà, continuer à explorer les ocres et aller plus loin là-dedans, là-dessus.
Le nôtre.
Donc votre site internet, donc c'est les ocres Société des ocres de France. Vous me donnerez le lien, je le mettrai.
Ouais, notre site ocres de France, notre page Instagram, c'est pareil @ocres de France et on publie du contenu, voilà, plus ou moins régulièrement.
Ouais,
mais voilà, on est ouvert pour répondre à toutes les questions, etc. Après un compte que ou un livre. Alors ben il y a les travaux de Jean-Marie Tria qui est celui qui a mis en avant justement la composition géologique de l'ocre, les caractéristiques propres à l'ocre, etc. Donc c'est intéressant d'un point de vue chimique et géologique, ça voilà, ça c'est intéressant. Après qui c'est que je pourrais citer. En fait, spécifique à l'ocre c'est rare
qu'il y ait un livre spécialement pour ça.
Il y en a, mais soit ils sont un peu vieux et du coup pas forcément actualisés avec les dernières infos. Donc j'en ai pas, je vais pas un titre qui me vient en tête parce que j'en ai, mais il y a des trucs que je vais réfuter entre guillemets dedans. Donc
Bon, donc on reste là-dessus. Et ma dernière question, Ludivine, c'est est-ce que vous auriez quelqu'un à nous recommander à qui vous passeriez le micro pour continuer à explorer les pigments minéraux avec vous? En fait, je pense que ça va quand même susciter des réflexions. Et je me dis, bah, est-ce que ce serait intéressant d'avoir un autre témoignage, quelqu'un qui fait quelque chose de particulier sur les pigments minéraux que vous voulez nous recommander?
Par exemple, ça peut être intéressant de parler tout à l'heure de celui qui crée les aquarelles, pourquoi pas. Donc, il s'appelle Com Barrois. Il travaille également avec d'autres artistes qui utilisent... mais ils sont trop nombreux pour que je les cite. Si j'en commence un, je vais donner pour les autres. Mais voilà, par exemple, nous, on commercialise aussi... Donc, les pastels, les aquarelles de Com, on commercialise les peintures à l'huile de François Chal, qui utilise également nos ocres, entre autres, dans ces fabrications d'huile.
Ouais. Est-ce qu'il y a une question, Ludivine, que je ne vous ai pas posée sur l'ocre et que vous auriez aimé aborder?
Non, après, que vous racontez de plus, on est entreprise du patrimoine vivant. On est EPV, donc depuis 2016. Donc ça, c'est chouette parce que c'est aussi une reconnaissance d'un savoir-faire traditionnel et de renom. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça contribue aussi à valoriser notre savoir-faire. Voilà. Non, après, on essaye de faire en sorte de perpétuer cette industrie pour les générations d'après. Et j'espère qu'en tout cas, ça aura suscité de l'intérêt.
Non, mais c'est sûr.
Et voilà.
C'est sûr. J'en suis sûre. Vu les questions que j'ai en message privé sur Instagram, je vous dis que c'est sûr que les gens vont être ravis. Et je suis ravie que vous ayez répondu super vite. Ça s'est vraiment fait rapidement. C'est génial.
Ouais, donc, c'est pas toujours le cas, mais là, pour le coup, ouais. Le créneau.
Ah ouais, carrément. C'était top. Et non, vraiment, moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc, je voulais vous remercier parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et comme vous dites, je m'étais jamais posé la question, clairement. Donc, je suis contente de faire un focus là-dessus. Je vais essayer de creuser, voir s'il y a d'autres parallèles qui peuvent être faits ou d'autres différences entre couleurs naturelles et couleurs minérales. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'ouvrir cette parenthèse. Et j'espère que les gens vont réagir au podcast. S'il y en a qui ont expérimenté, bah ouais, ce serait intéressant. Mais en tout cas...
Et puis, je pense que j'ai aussi pas mal de choses à apprendre sur le podcast côté végétal. Parce que voilà, c'est très très chouette aussi. Et alors, le peu que je connais, c'est par rapport à l'indigo, mais bon, on est quand même sur des connaissances très très limitées, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Et voilà, peut-être qu'on trouvera aussi des solutions, nous, à certaines. Parce que c'est vrai que souvent, par exemple, on me dit, je voudrais un pigment naturel bleu, et on leur dit, mais nous, on n'a aucun bleu naturel. Parce que, en termes de minéral bleu, c'est très rare. Il y a par exemple lapis-lazuli, mais j'ai regardé un peu les prix, on est autour de 21 000 euros le kilo, donc autant vous dire qu'on n'est pas dans, voilà, on s'en sert pas dans le bâtiment. Mais voilà, ça peut être intéressant de creuser côté végétal aussi,
ça peut être aussi l'occasion d'envoyer un appel aux gens qui écoutent, s'il y en a qui ont fait des parallèles entre végétal et minéral et qui veulent venir témoigner, qui veulent venir ajouter, compléter, etc. Ils ont l'adresse mail, on est OK pour discuter, même faire des rencontres, hein, y a aucun problème. Mais c'est bien d'ouvrir une parenthèse parce que je pense qu'il y a encore des choses à creuser. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont passionnés, soit de géologie, soit de chimie, soit qui vont nous donner des trucs qu'on n'a pas forcément pu balayer là aujourd'hui. Bon, en tout cas, Ludivine, un énorme merci parce que c'était très clair. C'était très intéressant et franchement, je suis vraiment ravie que ça se soit fait si vite toutes les deux pour enregistrer cet épisode. Donc merci beaucoup.
Trop bien. Merci beaucoup à vous pour votre intérêt et voilà pour avoir pensé à nous. C'était un super moment.
Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert ArtECovert pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous !